Histoire au Quercy. L'histoire de notre diocèse racontée par Étienne Beau.
Nous avons abordé dans notre précédente causerie l'épiscopat de Mgr Paul Chevrier, nommé évêque de Cahors en septembre 1941, intronisé dans sa cathédrale en décembre de cette même année. Après avoir présenté les débuts de son épiscopat, à travers la situation exceptionnelle que vit la France et le diocèse de Cahors jusqu'à la libération en août 1944 et la fin du conflit en mai 1945. Ce sont ces années noires qui, tragiquement, ont forgé une mentalité collective, accru la division des Français et les a abreuvés d'épreuves. Nous avons vu comment Mgr Chevrier avait dû gérer cette situation exceptionnelle. Nous allons maintenant évaluer son œuvre spécifiquement religieuse dans un climat évidemment plus serein à partir de 1945, œuvre qu'il a poursuivie jusqu'à sa démission en août 1962, c'est-à-dire au cours d'un épiscopat qui est le plus long de tous ceux que nous aurons à évoquer cette année, puisqu'il a duré à peu près 21 années. Œuvre spécifiquement religieuse donc, on citera d'abord sa défense de l'école chrétienne. Il s'employa à maintenir l'enseignement catholique qui était dans le diocèse fort de 73 établissements et cours, touchant 3500 élèves et 270 professeurs. Le nombre des écoles allait en diminuant, tandis que le nombre des élèves augmentait. L'après-guerre, en effet, a vu les débuts de ce qu'on appelait le baby boom, c'est-à-dire un redressement considérable de la natalité française qui avait déjà commencé juste avant la guerre et qui se poursuivit très largement au cours de ce que l'on a pu appeler les Trente Glorieuses. Cet enseignement chrétien était en but à de très grosses difficultés. Difficultés pour trouver des ressources stables qui seules en assureraient la pérennité. En effet, beaucoup d'écoles se trouvaient en péril de fermer. Pendant la guerre, l'entretien des bâtiments avait été négligé et, par conséquent, ce qu'on appellerait une mise aux normes aujourd'hui s'avérait indispensable bien souvent. On ne pouvait pas demander aux familles qui plaçaient leurs enfants dans l'enseignement chrétien une trop grosse contribution. Cela aurait, à coup sûr, un coût dissuasif. Ce coût serait certainement dissuasif et diminuerait les effectifs. Par conséquent, Mgr Chevrier a essayé de trouver des ressources pour sauver l'enseignement chrétien. Il a créé un comité des écoles libres qui gérait une caisse des écoles libres. Et cette caisse était alimentée par un denier spécifique des écoles libres. À côté donc du denier du culte, c'est-à-dire de cette contribution qui était demandée aux fidèles pour l'entretien du clergé, depuis la séparation, qui avait vu la fin de cette rétribution par l'État. Donc ce denier des écoles libres s'ajoutait au denier du culte, ce qui, en ces temps, surtout après immédiatement la libération, difficile, pouvait poser des problèmes. Il avait même institué une taxe sur les mariages, de manière à alimenter cette caisse, une taxe sur les honoraires des mariages, bien entendu, qui faisait partie du casuel. Et il avait lancé également de très nombreuses souscriptions pour dégager ses ressources. Ceci sur le plan local, mais sur le plan général, l'opinion chrétienne aspirait à un règlement définitif de cette question de l'enseignement libre. Et sur le plan politique, cela se traduisit par de très violents débats à l'Assemblée nationale entre ceux qui demandaient un financement de l'État pour ces écoles libres au nom de la liberté de l'enseignement, au nom de l'égalité devant l'impôt. En effet, puisque on disait que les parents qui mettaient leurs enfants dans les écoles chrétiennes devaient payer deux fois l'impôt. L'impôt normal pour qui allait aux écoles publiques et une somme supplémentaire pour le fonctionnement de l'enseignement libre, ce qui faisait une grosse charge, au nom aussi de la justice sociale pour les maîtres et les parents. Alors un grand parti, le Mouvement républicain populaire, le MURP, qui était démocrate chrétien, et ce parti démocrate chrétien avait son pendant en Allemagne, avait son pendant en Italie, et a joué un très grand rôle dans l'Europe occidentale dans les années qui ont suivi la guerre. Ce MURP donc réclamait effectivement une intervention de l'État en faveur de l'enseignement. Ce qui avait entraîné la rupture de ce parti qui gouvernait jusqu'alors avec le Parti socialiste et une frange des radicaux, les socialistes étant attachés à la laïcité et disant très nettement « les fonds publics doivent être réservés à l'enseignement public ». Mais la rupture de cette coalition a entraîné à la tête de la France un gouvernement de centre-droit. Et ce gouvernement s'est attaché à régler cette question scolaire. Et cela s'est traduit par la fameuse loi Barranger de septembre 1951. Il ne s'agissait pas de subventionner directement les écoles libres. Cela aurait été extrêmement mal vu aussi dans l'opinion. Il s'agissait de donner une subvention à tous les parents d'enfants scolarisés, qu'ils soient dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé. C'était pour l'époque 1000 francs par enfant et par trimestre. Et cette somme pouvait être utilisée donc par l'enseignement public pour ses propres besoins, et elle était versée directement à l'association des parents d'élèves de l'enseignement chrétien. Ainsi, par une voie détournée, il y avait un financement des écoles chrétiennes, des écoles libres. Ça a été un véritable ballon d'oxygène pour ces écoles qui étaient souvent en très mauvaise posture. Cette loi Barranger a été complétée par une autre loi, la loi Marie, M. Marie ayant été ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là, et cette loi accordait le bénéfice des bourses aux élèves de l'enseignement privé, au même titre qu'aux élèves de l'enseignement public. Enfin, une fois proclamée la Ve République, en 1958, avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, il y a eu, le 31 décembre 1959, la loi Debré, une loi qui se voulait fondatrice sur la liberté de l'enseignement. Cette loi Debré allait bien au-delà des précédentes, puisqu'elle jetait un véritable pont entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Ce qui se traduisait par l'établissement de contrats entre l'éducation nationale et les établissements privés, contrats simples ou contrats d'association. Dans le cas des contrats d'association, les professeurs étant directement payés par l'État. Ce qui fait qu'une très lourde charge était enlevée ainsi aux écoles libres. Il faut remarquer d'ailleurs qu'il y avait de plus en plus de laïcs dans l'enseignement privé. Ça a dépassé largement la moitié des effectifs et cela allait de pair avec la diminution des effectifs des congrégations religieuses, qu'elles soient masculines ou féminines. Alors Paul Chevrier a fait état de son grand soulagement en voyant que désormais, les ressources étaient assurées à l'enseignement privé. Il a multiplié les hommages aux maîtres de cet enseignement et surtout, ces nouvelles dispositions législatives ont permis d'inaugurer de nouveaux bâtiments que Monseigneur bénissait avec, on le devine, une grande satisfaction. Nouveau bâtiment du petit séminaire de Gourdon en 1956, de l'école Saint-Gabriel à Cahors en 1957 et également au lycée et collège Notre-Dame à Cahors au mois de mai 1958. Il faut remarquer aussi qu'il a favorisé le dynamisme de cet enseignement calqué sur celui de l'enseignement public en instituant de nombreuses conférences pédagogiques et en stimulant des aspects tout à fait novateurs dans ce type d'enseignement. On peut ajouter à cela un effort en fonction des colonies de vacances du Quercy qui ont été développées et un des lieux de ces colonies de vacances était en Gironde, au bord de l'océan, à Montalivet. Donc, on le voit, l'évêque a su parfaitement piloter cette question si douloureuse de l'enseignement qui a littéralement suscité beaucoup d'énergie au cours de ces années qui ont suivi le second conflit mondial. Un autre aspect de l'œuvre religieuse de Monseigneur Chevrier a dû évidemment, affronter la diminution très préoccupante des vocations. Et c'est dans ce domaine-là du clergé qu'il a eu effectivement le plus de soucis et un sentiment de réussite beaucoup moins grande par rapport à ce qu'il avait obtenu dans le domaine de l'école.
Présence à Cahors, 92.5.
Lorsqu'il arrive dans son diocèse en 1941, le clergé diocésain s'élevait à 290 prêtres. En 1962, son successeur, Mgr Bréhéreux, trouvera 140 prêtres. Par conséquent, cette diminution des vocations a été un des très grands soucis de l'évêque. Le nombre des entrants dans le grand séminaire ne cesse de diminuer. Il se situait autour de 16, entre 42 et 45 par an, et il n'a cessé de diminuer. Alors c'était très grave parce que les effectifs devenaient insuffisants pour profiter de cours vivants, réguliers. L'ambiance elle-même, avec si peu d'entrants, était complètement changée. Il faut ajouter à cela les contraintes du service militaire, qui faisaient que beaucoup de ces séminaristes devaient quitter les lieux pour rejoindre les casernes, et le service militaire va être de plus en plus long au fur et à mesure que les conflits, notamment les conflits coloniaux, vont être le lot de la 4e République finissante. Donc, par conséquent, Mgr Chevrier a dû se résoudre, la mort dans l'âme, en septembre 58, à fermer le grand séminaire. Ce grand séminaire, dont les locaux avaient été rachetés en 1932 par Mgr Giré, nous l'avons évoqué au cours des précédentes causeries. Il avait été confisqué en 1906 à la suite de la séparation de l'Église et de l'État. Mgr Giré avait pu le racheter. Il avait fait des travaux considérables. La bibliothèque de ce grand séminaire était d'une exceptionnelle richesse. Bref, c'était évidemment pour l'évêque le sentiment d'un échec. Les séminaristes sont partis à Rodez achever leur formation, et c'est Rodez qui, donne dans un premier temps, a accueilli les séminaristes du diocèse de Cahors. Voilà donc les problèmes qu'il a dû résoudre vis-à-vis du clergé. On peut évoquer aussi toute son action, d'une manière générale, dans ce qu'on appellera, en faveur de ce qu'on appellera, le peuple de Dieu. Mgr Chevrier écrivait des lettres pastorales très longues. C'était l'époque, d'ailleurs, où dans les diocèses, les évêques faisaient de très longues lettres qui étaient lues en chaire immédiatement après l'Évangile. Parfois, elles étaient tellement longues qu'il fallait diviser ces lettres pastorales en plusieurs parties, sous peine de lasser le public, tant et si bien que l'on sait que un texte qui est lu, finalement, n'arrive pas à fixer l'attention des gens pendant très très longtemps. Et il m'a été rapporté des anecdotes de gens d'âge aujourd'hui qui, enfin, entendaient ces lettres pastorales de Mgr Chevrier qui n'en finissaient jamais, et quel soulagement était le leur quand ils attendaient Paul Chevrier, évêque de Cahors. Ça signifiait que c'était fini. Ces lettres pastorales étaient des incitations à la prière, des incitations au sacrifice et très souvent aussi la condamnation de la vie moderne. Nous en reparlerons. Mgr Chevrier était très fidèle à visiter les paroisses de son diocèse. Il ne ménageait pas sa peine. Il aimait les belles célébrations qu'il célébrait, qu'il présidait avec beaucoup de dignité. Lui qui, dans la vie courante, nous l'avons souligné, parlait très peu, était hostile à toute conversation inutile, au risque de désarçonner bien souvent les gens qui étaient avec lui, déroutés par ces très longs silences. Lui prêchait admirablement. Et il était très écouté. On peut citer quelques-uns de ces temps forts qu'il a présidés. l'année mariale de 1958 et l'année suivante, on a célébré le centenaire des apparitions à Lourdes. On peut citer la grande mission de Cahors, 1960, avec des manifestations religieuses que l'on imaginerait assez mal aujourd'hui, les allées Fénelon absolument noires de monde, un hôtel dressé contre le square du fond et des processions, des homélies, des manifestations tout à fait spectaculaires à l'extérieur. Il était toujours disponible quand on le sollicitait. Et, par exemple, il venait lui-même présider à la communion solennelle des établissements publics, notamment du lycée Gambetta, et administrer le sacrement de confirmation. Paul Chevrier, et c'est sans doute là une des caractéristiques essentielles de son épiscopat, le plus long, encore une fois, de ce que nous avons à présenter, a été très bien secondé par son entourage. Un entourage qui était riche en fortes personnalités et qui était ouverte aux problèmes du temps. On peut évoquer ainsi quelques-uns de ces personnages, le chanoine Léopold Mamoul, qui avait été directeur du Grand Séminaire jusqu'à sa fermeture, et qui avait été le nouveau directeur de la revue religieuse de Cahors et de Rocamadour. Et ce changement, à la tête de ce qui était au fond le journal officiel du diocèse, s'est traduit véritablement par un changement de ton, avec l'évocation des problèmes du temps, les questions coloniales notamment. La France est à cette époque aux prises avec beaucoup de douleur, avec ce qu'on appelait la décolonisation, plusieurs guerres coloniales qui se sont soldées, évidemment, c'est facile à dire aujourd'hui, par des échecs d'abord en Indochine, ensuite en Afrique du Nord. Le chanoine Mamoul était favorable à la promotion du laïcat, il le dit dans la revue religieuse, ce qui était une forte nouveauté à l'époque. Il a accompagné son évêque pour la visite ad limina, puisque les évêques sont tenus de faire périodiquement un voyage à Rome pour rencontrer le Saint-Père. Et on a une très belle photo de Pie XII avec à ses côtés Monseigneur Chevrier et le chanoine Mamoul. On peut citer également le chanoine Dablan, qui était directeur de l'enseignement libre, le chanoine Gaillac et Monseigneur Daraki, qui avait été curé de la cathédrale. Il y avait aussi un groupe de jeunes prêtres qu'il recevait et, selon le témoignage de Monseigneur Gauzin que j'ai recueilli, qu'il écoutait. Son tempérament était contemplatif, quasi monacal, et il se rendait compte que cela pouvait entraîner une solitude de l'évêque. Par conséquent, il a su très largement recevoir et écouter.
Histoire au Quercy. L'histoire de notre diocèse, racontée par Étienne Beau.